Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question d'un sujet qui semble, à prime abord, complexe, mais qui est en réalité assez simple à comprendre. Il s'agit du patriotisme communautarien. Et oui, mesdames et messieurs, du patriotisme communautarien. Cette intervention fait partie d'une série que j'ai intitulée « Aux citoyens de bonne foi ». Hier, nous avons parlé de l'impact sur notre culture. Aujourd'hui, on parle du concept de patriotisme communautarien. Et oui, mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, ça mange un peu de tout. Mais plus spécifiquement et plus sérieusement, on va d'abord définir ce que c'est que le patriotisme, ce que j'entends par le patriotisme. Le patriotisme, c'est d'accorder une valeur à la terre de nos pères, de nos ancêtres, de nos descendants. Lorsque je suis un patriote, c'est que je reconnais que ma patrie a de la valeur. La patrie, c'est quoi? C'est la terre de mes pères. C'est la terre de mes ancêtres. C'est la terre de ceux qui m'ont précédé. Et donc, est-ce qu'on est appelé à être des patriotes au Québec, au Canada? Quelle doit être notre attitude, par exemple, face à l'immigration? C'est un sujet qu'on entend parler presque tous les jours et c'est un sujet qui pourrait diviser. Mais moi, le concept que je veux apporter, c'est un concept rassembleur. C'est justement le concept de patriotisme communautarien. Pour se mettre dans le contexte, parce qu'ici, il y a des citoyens de bonne foi et il y a des gens de foi. Ce qui arrive, c'est que parfois je m'adresse aux deux, parfois je m'adresse aux citoyens de bonne foi et d'autres fois, je m'adresse aux gens de foi. Et là, j'aimerais m'adresser pour quelques secondes aux gens de foi. Mais citoyens de bonne foi, ne nous quittez pas parce que je t'avoue dans un instant. Pour se mettre dans le contexte, en Israël, donc dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à son peuple, « Écoute, tu vas instaurer, tu vas commencer à établir une nation. Je vais faire de toi une nation, puis vous allez vous installer dans le pays de Canaan. Et je vais vous donner des lois. » Dieu a donné 613 lois, les 10 commandements et 603 autres lois qui touchent la vie courante, la vie religieuse et, si on veut, bien, la vie civile, avec différentes cérémonies. Et dans ces 613 lois, Dieu parle à son peuple concernant l'immigration. Il dit « Tu vas accueillir l'étranger parmi vous. » Mais au travers de toutes ces lois, il leur dit comment vivre, quelles seront les normes, quels seront les critères, quelles seront les lois pour la nation. Et donc, lorsque des étrangers venaient en Israël, ils savaient à quoi s'attendre. Ils savaient ce qui était permis de ce qui n'était pas permis en Israël. Vous allez dire, ouais, mais là, on n'est plus sous l'Ancienne Alliance. Je vous l'accorde à 100%. L'apôtre Paul est très clair. On n'est plus sous l'Ancienne Alliance. On est sous la Nouvelle Alliance. Jésus-Christ est très clair. Il est venu pour inaugurer une nouvelle alliance. L'Épître aux Hébreux est très clair. Ce qui est ancien est passé. Maintenant, on est dans une nouvelle réalité, la Nouvelle Alliance, ici sur Terre. Maintenant, le Nouveau Testament, cette Nouvelle Alliance, nous enseigne qu'on doit considérer et tirer instruction, tirer leçon de ce qui s'est passé dans la période, si on veut, de l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme instruction là-dessus? C'est d'être accueillant envers l'étranger, mais d'avoir des normes claires dans notre nation, des valeurs claires, des lois claires. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je crois qu'il est important d'avoir un patriotisme, donc une clarté. Quelles sont les valeurs que l'on conserve et qui sont rattachées à l'instauration de notre nation ici, au Québec, mais d'avoir une approche communautarienne. Pas communautaire, mais communautarienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque communauté a le droit et le loisir de se développer. Vous allez dire, oui, mais ça va produire des sous-cultures. Il y en a qui vont dire, oui, ça va produire des ghettos. Si ces communautés se développent à l'intérieur d'une patrie bien définie, ça ne formera pas des ghettos. Je vais vous dire pourquoi. Parce que même au sein d'une même communauté, il y a des différences sur le plan des égalités sociales. Si on prend, par exemple, la communauté juive, ce n'est pas tous les juifs qui sont sur le même pied d'égalité, sur le plan social, sur le plan économique. Il y a des différences sur les intérêts culturels. Il va y avoir des familles juives qui vont être portées un peu plus vers le sport, d'autres vers les arts, d'autres vers, par exemple, la botanique, etc. Il y a différents intérêts culturels au sein d'un même groupe. Des différences sur le plan de la scolarité. Je prends encore la communauté juive, mais ça pourrait être la communauté bouddhiste. Il pourrait y avoir, par exemple, des bouddhistes qui sont moins scolarisés, puis d'autres qui sont plus scolarisés. Et donc, les sujets de discussion, les intérêts sont différents. Donc, oui, ils ont des valeurs communes ou des croyances communes, mais ils vont s'intéresser à d'autres sujets également, ce qui fait qu'ils ne seront pas tous ensemble dans le même bloc appartement. Des différences au niveau des réseaux, à cause du travail, à cause des amis, à cause des activités sociales. Il y a aussi des distances géographiques. Ça ne veut pas dire que tous les Juifs vivent dans le même quartier. Oui, c'est vrai qu'il y a des concentrations plus fortes à Montréal, à certains endroits, mais il y en a un peu partout sur l'île de Montréal des Juifs. Il y en a même à l'extérieur de Montréal. Il y en a même à Sainte-Agathe-des-Monts, au nord de Montréal. Vous avez des intérêts politiques qui peuvent être divergents au sein d'une même communauté. Donc oui, ils peuvent se développer, avoir des écoles, par exemple, ou avoir des activités communes, mais ils vont être mêlés au sein d'une patrie qui est définie. Et donc, comment réconcilier l'amour de la terre de nos ancêtres et offrir la liberté aux nouveaux arrivants pour pas qu'ils se sentent encarcanés? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est que lorsque les nouveaux arrivants frappent à la porte du Québec ou du Canada, ils cherchent une terre d'accueil qui est plus avantageuse que la leur. Et donc, ce serait important qu'ils puissent non pas entrer dans une terre qui ressemble à leur imagination, mais plutôt une terre qui ressemble à ce qu'elle est, afin que les choses soient clairement établies avant que ces nouveaux arrivants mettent les pieds chez nous et s'installent chez nous. Donc, qu'est-ce que sera cette terre d'accueil? À quoi ressemble le Québec qui veut accueillir ces nouveaux arrivants? Ce qui est important, c'est se définir pour nous-mêmes et pour les autres. Pour dire aux nouveaux arrivants qui frappent à notre porte et qui vont nous dire, bon, on veut habiter chez vous. Parfait, savez-vous dans quoi vous vous embarquez? Ici, au Québec, c'est comme ça. C'est un pays au climat tempéré. Il neige de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps. En hiver, il peut faire moins 20, moins 30. Ici, un des éléments de notre patrimoine, de notre folklore, c'est la cabane à sucre, le sirop d'érable. Un élément de notre patrimoine, c'est qu'ici, on joue au hockey, ça fait partie de notre histoire. On fête Noël, on fête Pâques, on fête l'Action de grâce. Et on a des valeurs de justice, de persévérance, de charité, de tempérance, d'espérance, de foi, de prudence. Et ici au Québec, selon Pierre Côté dans son livre Québécois 101, eh bien, on se définit comme étant chaleureux, ouvert d'esprit, généreux, débrouillard, travaillant, sensible, déterminé, courageux, optimiste et discipliné. Et donc, mesdames et messieurs, si les nouveaux arrivants veulent de ce Québec, on va les accueillir à bras ouverts. S'ils sont de foi musulmane, ils vont pouvoir fêter le Ramadan, mais ne pourront pas en faire une fête nationale parce que nous mettons en valeur notre patrimoine, ce qui est issu de notre passé, de notre histoire, de nos jalons historiques. Ici, dans un patriotisme communautarien, on permet aux gens de fêter le Ramadan, mais on ne peut pas empêcher les gens de fêter Noël et de se souhaiter joyeux Noël en public. Dans un patriotisme communautarien, on ne peut pas empêcher un hôtel de ville de mettre une crèche sur son perron. On ne peut pas empêcher, dans un patriotisme communautarien, des élèves de chanter les chants traditionnels de Noël dans les écoles. Dans un patriotisme communautarien, on ne peut pas enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. On ne peut pas enlever la croix sur le Mont-Royal. Mais savez-vous, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a peu de chefs politiques, comme Mario Dumont à l'époque, qui vont aller jusque-là. Et ici, comprenez-moi bien, là, l'apport des communautés ethniques est important. Ce sont les communautés ethniques qui nous ramènent à garder nos valeurs dans bien des cas. Nos valeurs de respect de l'âge, de respect de l'autorité, de respect de Dieu ou de respect du développement spirituel, de liberté de conscience, de liberté de religion, de liberté d'expression. Et quoi qu'il nous apporte énormément, nous sommes rendus à un point de notre histoire au Québec où est-ce que nous avons besoin de mettre en valeur notre patrimoine. Et ça ne doit pas être fait contre les communautés ethniques, ça doit être fait tout simplement pour se donner des points de repère, des balises. Ce qui va solidifier notre culture, mesdames et messieurs, et notre identité, eh bien, c'est exactement ce que Deblois et Corriveau vont nous dire à la page 13. Ils vont nous dire qu'une culture commune se manifeste aussi de façon tangible par des rites, des célébrations, parce qu'elle est construite autour d'une expérience partagée. Une culture s'appuie enfin sur une histoire qui relate les moments importants et déterminants de l'évolution du groupe, une histoire que les membres se remémorent et dans laquelle ils retrouvent le sens de leur engagement. L'association du concept de culture à celui d'organisation fait donc référence à la réalité culturelle qui se crée à l'intérieur d'un groupe restreint et qui s'est constitué pour des fins spécifiques et qui poursuit une mission commune. La culture d'un groupe est donc en quelque sorte ce qui anime et inspire le fonctionnement du groupe, ce qui donne vie et sens aux démarches organisationnelles et administratives. Et ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs. Savez-vous quoi? L'aspect de l'histoire est crucial, parce que lorsqu'on fait référence à notre histoire, c'est là qu'on relate les moments importants et déterminants de notre croissance. Et plus que ça, lorsque les groupes ou les membres de ce groupe se remémorent son histoire, eh bien, c'est là qu'on retrouve le sens de notre engagement. Ça, c'est important. Et il va dire également à la page 17, « Enfin, la culture organisationnelle repose sur des postulats qui, de par leur nature, font partie du patrimoine commun du groupe sans être clairement présents à la conscience des membres. Ceux-ci influencent et expliquent, par ailleurs, le type de comportement qui prédomine dans l'institution. » Et donc, ça veut dire quoi? C'est que oui, il y a des éléments de notre patrimoine qui sont présents, qu'on ne remet pas en question. Mais puisqu'on est à une époque où est-ce qu'on cherche à les remettre en question, et à une époque où est-ce qu'on ne sait plus comment se définir, il est temps pour se définir, se donner des repères et s'assurer de ce que notre patrimoine ne se dissout pas dans un ensemble dilué, eh bien, il est temps qu'on amène de la clarification. Et c'est pourquoi je suis convaincu que le patriotisme communautarien permet à chacun de se développer tout en ayant des points de repère culturels clairs. En résumé, nous avons besoin de mettre en valeur notre patrimoine sans l'imposer, de laisser les communautés libres de se développer à l'intérieur de notre nation, et ça, ça inclut le droit à l'école, mais j'y reviendrai, et d'avoir des politiciens courageux qui vont l'instaurer dans une constitution propre au Québec. Sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, je vous invite à poursuivre la discussion en m'écrivant à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur avec un seul G, @commercialericlantier.net. Lors de notre prochaine rencontre, mesdames et messieurs, il sera question de l'indépendance du Québec. Maintenant, je ne vous encouragerai pas à voter oui ou à voter non, mais je vais vous présenter les éléments qui peuvent avoir un impact ou une incidence claire sur nos libertés. Alors, je vous encourage à écouter cette intervention avec objectivité, sensibilité Et je vous encourage également à m'écrire pour en discuter. N'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci à vous tous qui nous écoutez en direct ou sur la toile. Je vous dis donc à lundi.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!